l'économie de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Don Juan, un personnage ô combien espagnol, andalou même, encore plus précisément, sévillan. Un personnage qui allait s'imposer comme une nécessité, en perpétuel devenir Don Juan, et Don Juan, le mythe, le personnage, et son instinct de destruction, et le théâtre. Don Juan, la crise entre civilisation mahométane et civilisation chrétienne. Don Juan, qui a la polygamie dans le sang. Dans Collège des Ondes, Joseph Paul donnait aux auditeurs de la chaîne nationale, le 6 mars 1953, une causerie sur le thème de Don Juan chez Lope de Vega. Le véritable Don Juan s'attaque à l'âme, le reste lui est donné par surcroît.
Le Don Juanisme de Lope de Vega. Tout le monde est plus ou moins d'accord pour affirmer que le burlador de Séville de Tirso de Molina est le premier Don Juan en date, la pierre angulaire sur laquelle se sont bâtis tous les autres Don Juan. Mais quelles sont les origines de ce premier Don Juan? Là-dessus, les avis sont partagés entre ceux qui considèrent que Tirso est parti du néant, ou plus exactement, qu'il a profité de la transmission orale de la légende, et ceux qui s'accordent à considérer la comédie du diffamateur de Juan de la Cueva, auteur sévillan du XVIe siècle, comme le seul précédent littéraire au burlador. La pièce de Tirso est d'une telle maturité, une maturité déjà teintée de vieillesse, qu'il est difficile d'admettre qu'elle n'ait pas été précédée par d'autres tentatives plus ou moins heureuses dans le même sens. Nous inclinons à considérer, pour des raisons que nous exposerons tout de suite, le diffamateur comme le précédent littéraire du Don Juan de Tirso, mais non comme le seul. Entre Juan de la Cueva et Tirso de Molina, qui vient un siècle plus tard, il y aurait un vide immense et inexplicable s'il n'avait pas été largement comblé par Lope de Vega. Mais n'anticipons pas trop et procédons méthodiquement. D'abord, doit-on considérer, oui ou non, le diffamateur comme un précédent au burlador, et pourquoi? La question mérite d'être soulevée parce qu'un érudit comme M. Francisco de Icaza, éditeur de Juan de la Cueva dans la collection de classiques castillans de la lecture, met tout le poids de son autorité à nier cette hypothèse qui est due, d'après lui, à la routine et à l'ouï-dire. Selon M. de Icaza, il n'y a aucun trait chez Leucino, le diffamateur, capable de justifier un tel titre, une telle paternité, car Leucino, pour vaincre les obstacles qui s'opposent à la satisfaction de ses désirs, a constamment recours à la corruption par l'argent. D'après M. de Icaza, il y a chez Don Juan un trait qu'on ne saurait confondre avec ce vulgaire recours à l'appât matériel, qui est la cause de son succès et qui permet de le reconnaître au prime abord. Quel est ce trait? M. de Icaza ne nous le dit pas. C'est ici que les choses se compliquent, car il y a certes chez Don Juan une autre dimension, tout le monde le dit, tout le monde le reconnaît. On parle de Don Juan comme de quelqu'un dont l'archétype, le modèle, aurait été fixé une fois pour toutes et auquel on se rapporte lorsqu'on y fait allusion. Mais dès qu'on veut saisir cette personnalité sous-entendue, toute est diversité et contradiction, car ce Don Juan dont tout le monde parle est un personnage élaboré par la pensée collective, fortement imprégné de romantisme, mais qui ne se trouve fixé d'une façon définitive dans aucun texte. Aucun Don Juan n'a encore épuisé le sujet de Don Juan. Don Juan est, peut-être pour toujours, en perpétuel devenir. Le mythe est plus fort que toutes les œuvres d'art qu'il a inspirées et qui ont voulu l'incarner. Les arguments que M. de Icaza avance pour nier le donjuanisme de Leucino, le diffamateur, sont valables pour nier celui de Burlador, à cette différence près que ce dernier s'appelle déjà Don Juan. Mais où est le donjuanisme de ce premier Don Juan? Où est le donjuanisme du Don Juan de Molière? Le Don Juan de Tirso obtient la faveur des femmes grâce à l'obscurité, se faisant passer par l'homme qu'elles attendent. Celui de Molière emploie des moyens encore plus grossiers, puisqu'il promet aux femmes le mariage. Où est-il là encore le vrai Don Juan ? Don Juan aurait-il jamais existé ? Pourtant, lorsque nous parlons de Don Juan, nous lui attribuons mentalement d'autres mérites beaucoup plus subtils que ceux de substituer pendant la nuit à la main attendue, ou celui d'exploiter vulgairement les rêves de jeunes filles. Quels sont ces mérites? Comment Don Juan se comporte-t-il pour être Don Juan? Don Juan est un Andalou, pour être plus précis, sévillan, qui naît approximativement un siècle après la conquête chrétienne de la péninsule ibérique contre le Mahométan. Nous avons souligné les deux mots nécessaires à l'intelligence du problème. Don Juan est le produit du croisement de deux civilisations, la civilisation mahométane et la civilisation chrétienne. Il fait son apparition virulente à l'endroit précis où le choc entre ces deux civilisations a été le plus profond et le plus durable, en Andalousie. Bref, Don Juan est l'homme qui a la polygamie dans le sang comme une loi naturelle et un droit indiscutable et auquel on veut imposer tout à coup la monogamie. La polygamie est pour lui la norme. La monogamie, une imposition extérieure et arbitraire. En tout cas, Don Juan est l'homme chez qui la loi du sang est plus forte que cette prescription postérieure et épidermique. Don Juan est une rébellion contre la monogamie, et comme toute rébellion, sa force destructrice est proportionnelle à la pression qui a été exercée sur lui. Don Juan, au lieu de devenir hypocritement, sournoisement, un polygame, à la façon d'un civilisé, c'est-à-dire en faux monogame, a besoin de se lancer furieusement à la poursuite des femmes. L'hostilité du milieu contribue à sa démesure. Fils des deux civilisations contradictoires, il échange des signes dans son fort intérieur. Chez Don Juan, l'arabe, le conquis, le polygame, devient le conquérant. Le conquérant, le chrétien, le monogame et le conquis. Don Juan apparaît donc comme une vengeance souterraine des peuples mahométans contre la civilisation espagnole chrétienne. Son vrai don, le don de Don Juan, est cette poussée obscure qui lui vient des conquérants. Don Juan, le fils du croisement arabo-chrétien qui n'a plus rien à conquérir dans la péninsule, et devient le conquérant de ce que nous appellerions de nos jours le front intérieur. Son besoin de domination, de possession ne connaît pas de limites, ne tolère pas d'obstacles. Ce trait, nous le trouvons déjà dans le diffamateur de Juan de la Cueva. Que les moyens employés pour obtenir ce qu'il se propose soient différents, cela ne change rien à la question. L'argent vaut bien dans ce cas la complicité de la nuit ou la promesse de mariage. Quelle femme à mon amour n'a pas obéi, ou mitigé de mes désirs les peines? Ainsi parle Leucino, qui possède un autre des traits les plus caractéristiques de Don Juan, l'intrépidité. Il s'expose, il risque tout pour obtenir ce qu'il se propose. Je voudrais bien savoir qui est capable de m'empêcher de faire mon caprice. Oui, cela ne fait pas de doute. L'homme qui parle ainsi est né dans la péninsule ibérique au cours des 8 siècles de lutte contre le mort. C'est le conquistador, que ce soit des terres, des mers ou des femmes. Si le diffamateur de Juan de la Cueva peut être considéré avec raison comme un précédent du Don Juan de Tirso, il n'en est pourtant pas le seul. Il y en a un autre d'un donjuanisme beaucoup plus intense que celui de Don Juan de Tirso, qui est Lope de Vega lui-même. Un Don Juan qui ne s'est pas cristallisé dans une pièce précise, mais que nous trouvons disséminé dans toute son œuvre. Certes, elle n'est pas pour les Timorais ni pour les historiens la lettre de l'histoire de théâtre, la thèse que nous défendons. Mais il nous a toujours surpris qu'on puisse affirmer que le Don Juan de Tirso était né, sans précédent, presque par génération spontanée, lorsqu'il y a eu auparavant un Lope de Vega, dont la vie et l'œuvre semblent une illustration de ce personnage. Le drame de Lope est précisément de ne pas avoir pu objectiver ce drame, d'en être lui-même constamment l'objet, le jouet. Quand Tirso de Molina entre en scène, dans la scène qui est le théâtre, l'atmosphère est déjà saturée, débordante d'un certain mode de vie, d'une certaine façon d'envisager l'amour que Lope a imposé avec le triomphe de son théâtre. Quelle serait cette conception de l'amour, si étroitement unie au personnage de Don Juan, et sans lequel celui-ci ne semble pas avoir d'existence possible. Essayons de l'expliciter en peu de mots. Tout le monde connaît la théorie stendhalienne de la cristallisation, d'après laquelle l'imagination s'empare petit à petit de l'être ou de l'objet aimé et le pare de ses plus beaux attraits. Eh bien, l'amour auquel nous faisons ici allusion est juste l'opposé de celui-là. La femme, dès son enfance ou dès son adolescence, élabore une image de l'être aimé. L'amour a une telle importance dans sa vie qu'elle tisse, avec n'importe quelle sorte de matériel, une image idéale qu'elle identifie à l'amour. C'est alors que l'amour fait irruption, non pas pour confirmer cette image, mais pour la détruire, la bafouer. Un regard suffira, car c'est toujours le regard le porte-venin dans ce cas, pour anéantir en moins d'une seconde cette longue et délicate construction si soigneusement préservée. Le prince de la légende est devenu tout à coup un charbonnier, un gitan ou un prince à la rigueur. C'est, ni plus ni moins, la psychologie du coup de foudre. Nous trouvons cette formule, ou ces données, inlassablement employées dans le théâtre de Lope de Vega. Il y a même une constante, une répétition, une étrange coïncidence à faire débuter l'intrigue sous cette forme. Un besoin évident d'y revenir. C'est là qu'il faut voir son donjuanisme, car ce besoin de revenir à l'amour, à travers ses œuvres, l'insatisfaction qu'il éprouve devant l'œuvre accomplie, sont plus qu'une insatisfaction artistique. Elles trahissent une insatisfaction vitale, une insatisfaction amoureuse qui est exactement celle de Don Juan. Tout se passe comme si Lope avait passé la moitié de son temps à chercher une intrigue ou une situation dramatique capable de donner à ce coup de foudre une valeur aussi absolue que possible, afin que les conséquences inévitables qu'il entraîne soient le plus impensable, le plus imprévisible, le plus délirante qu'on puisse trouver, comme il advient dans Péribáñez, le meilleur alcalde et le roi, l'étoile de Séville, la fille aux yeux d'or, c'est-à-dire la Niña de Plata, et Castelvines y Montesis, pour ne citer que des œuvres de premier plan. C'est ainsi que dès le début de La fille aux yeux d'or, car pour la plupart du temps, ces coups de foudre se situent au début de la pièce et sont la cause de l'action ultérieure, le prince Henri de Castille passe sous le balcon de la belle et en reste épris.
On dit que l'infant va passer. Eh bien, il faut nous aussi en témoigner notre joie. Faites tendre le tapis de soie devant la fenêtre.
Il n'est pas beau. Il est loin de valoir ceux de nos voisins.
Mais enfin, il prouvera du moins de notre bonne volonté.
Vite, Inès, tendez le tapis.
Mais voici l'infant, sans doute. J'entends de la musique et des cris du côté de la porte royale.
Est-ce que le roi vient aussi?
Ils ne sont pas bien ensemble.
Alors je ne conseillerais pas à l'infant de rester à Séville. Le roi Dom Pedro est si sévère.
Henri est un brillant cavalier. Le roi pourrait bien être jaloux de l'affection que lui témoignent chaque jour les peuples de Castille et d'Andalousie.
Il paraît, ma tante, que le roi Dom Pedro est d'un caractère peu aimable.
Il vit dans de continuels soupçons, et on le dit jaloux de ses frères.
Ce n'est pas de la même mère qu'ils sont nés. Ils sont seulement du même père. Et tout ce qu'ils ont, honneur et bien, il semble au roi qu'il le lui ait enlevé.
Les voici!
Je ne vous cache pas que j'ai beaucoup de sympathie pour Don Henri.
Qui pourrait ne pas aimer un prince d'un si grand mérite?
Comment trouvez-vous la ville?
La 8e merveille du monde. Mais nommer Séville, c'est tout dire.
C'est vrai.
Comment s'appelle cette rue?
La rue des armes.
Fort bien. Mais je pense qu'on a voulu dire les armes d'amour, à cause de cette quantité de belles dames qu'on y voit. Et ces armes-là sont les plus dangereuses. Une jolie main m'a toujours inspiré plus de crainte qu'une compagnie de gens de guerre. Quelle est cette dame que j'aperçois à ce balcon?
Ah, une dame qu'on appelle la 10e muse à cause de son esprit et la 4e grâce pour la beauté. C'est une femme incomparable. À la beauté de Vénus, elle joint l'amabilité de Cléopâtre. Elle est l'objet de tous les vœux. Pour tout dire en un mot, c'est elle qu'on appelle la belle aux yeux d'or. Ce prodige de perfection, notre orgueil, notre gloire, dont vous avez probablement ouï parler. On a beau vanter notre fleuve, notre alcazar, nos rues, nos guerriers, nos richesses, il faut toujours finir par avouer que notre plus grande merveille, c'est la belle aux yeux d'or.
En effet, j'ai beaucoup entendu vanter sa beauté et ses talents.
C'est tout ce qu'il faut admirer ici.
Allons, grand maître. Salons tous deux ce balcon. Quand bien même ce ne serait pas de ma part un hommage à la réputation de cette dame, je le ferais rien que pour vous être agréable.
Rendez à l'infant son salut.
Que Dieu garde votre Altesse.
Quelle beauté! Il me semble qu'elle m'enchaîne à cette place.
Ne nous arrêtons pas, nous aurons d'autres occasions. Le roi attend et nous devons nous hâter d'aller lui baiser les mains.
Dans le meilleur alcalde, le roi, dompté du noble galicien auquel on a vanté la beauté d'Elvire, une paysanne qui doit se marier avec Sancho, est subitement enflammé par la beauté d'Elvire et empêche le mariage.
Monseigneur.
Sange.
Ce serait folie à un pauvre rustre tel que moi de prétendre vous remercier comme il convient pour tant de bonté.
Où est ton beau-père?
Ici, où l'honneur que vous lui faites va prolonger le cours de ses années.
Embrassez-moi.
Je voudrais que cette maison fût un monde et que vous fussiez le seigneur de ce monde.
Comment vous nommez-vous, ma petite?
Village, seigneur.
Mais je ne te parle pas à toi.
Alors je me suis trompé.
Joanna, à votre service.
Elle est gentille.
Oh, vous ne la connaissez pas? Il faut voir, quand quelques garçons sévissent de la pincée, comme elle vous lui donne de ses cuillères à peau sur la tête rudement. Une fois, pour ma part, ayant voulu m'approcher de la marmite, je reçus d'elle un coup dont je demeurais 2 mois durant tout étourdi.
Et vous, votre nom?
Pélage, seigneur.
Mais ce n'est pas à toi que je parle.
Alors je me suis trompé.
Comment vous appelez-vous, ma petite?
Moi, seigneur, Léonore.
Il s'informe des jeunes filles et des garçons pas du tout. Moi, seigneur, je m'appelle Pélage.
Es-tu quelque chose à quelqu'une d'elles?
Oui, seigneur, je suis le porcher.
Je demande si tu es le mari ou le frère.
Mais c'est mal appris.
Ce n'est pas ma faute si ma mère m'a fait comme ça.
Voici la mariée qui vient avec sa marraine.
Oh, la belle fille.
Excusez mon embarras. Vous le comprendrez sans peine. C'est la première fois que je vois votre seigneurie.
Veuillez vous asseoir sur ces sièges modestes. Ce sont ceux d'un laboureur.
Jamais je n'ai rien vu de si beau. Quelle divine perfection! Combien elle est au-dessus de tous les éloges que l'on fait d'elle. Heureux celui qui a l'espoir de posséder tous ses charmes. Asseyez-vous.
Oh non, monseigneur.
Asseyez-vous.
Oh non pas, c'est trop d'honneur. Moi, m'asseoir devant vos seigneuries.
Je n'aurais jamais cru qu'il existait une beauté aussi parfaite.
Et moi, où pourrais-je m'asseoir?
Toi, mon ami, ta place est dans l'écurie et c'est là que tu peux faire la fête.
Oh, vive Dieu, je me sens brûlé de 1000 feux. Comment se nomme la mariée?
Pélage, seigneur.
Oh, te tairas-tu? Sa seigneurie parle aux femmes et tu n'es pas une femme, toi. Elle se nomme Elvire, monseigneur.
Vive Dieu, voilà une Elvire qui est bien belle et qui est digne par ses attraits d'un mari aussi bien né.
Allons, jeune fille, égayez la fête.
Oh, elle est ravissante.
En attendant que le curé arrive, dansez à la mode de ce pays.
Le curé est déjà arrivé?
Dites-lui qu'il n'entre pas. Oh, cette beauté céleste me fait perdre la raison.
Pourquoi, monseigneur, ne voulez-vous pas que le curé...
Mais parce que, à présent que je vous connais, je veux vous honorer davantage.
Mais tout ce que je demande, tout ce que je désire, monseigneur, c'est de me marier avec Elvire.
Demain, ce sera mieux.
Oh, seigneur, ne retardez pas de grâce le bonheur que j'attends. Ce serait pour moi un désespoir. D'ici à demain, songez-y, le moindre accident peut me ravir un bien que je suis au moment de posséder. On a dit depuis longtemps que chaque soleil amène avec soi quelque chose de nouveau. Qui sait ce que nous amènera le soleil de demain?
Mais quel entêtement! Je veux lui faire honneur, lui faire fête, et lui, ma sœur, sans égard pour votre présence, il s'obstine de la façon la plus malhonnête. Emmenez votre fille, Nuño, et demeurez tranquille cette nuit.
Il sera fait comme vous ordonnez.
Quelle injustice! Et de quoi se fâche Dontello? Je le lui aurais dit si cela n'eût été inconvenant de ma part.
J'ignore sa volonté, son intention, mais il est seigneur. Et tout ce que je puis faire, c'est de m'affliger qu'il soit venu dans ma maison.
J'en suis encore plus fâché, quoique je n'ai rien fait paraître.
Ah ça, est-ce qu'il n'y a pas de noces cette nuit?
Hélas, non.
Et pourquoi?
Dontello ne veut pas.
Dontello peut donc l'empêcher?
Il paraît qu'il en a le pouvoir.
En ce cas, il a bien fait d'y mettre opposition avant l'arrivée du curé.
Écoute, Elvire.
Hélas. Mon ami, je sens que je ne suis pas née pour être heureuse.
Quel est donc le projet de Dontello qu'il est désiré différer jusqu'à demain?
Je ne sais pas ce qu'il peut vouloir, mais il n'en faut pas douter. Il veut quelque chose.
Combien il est cruel de m'enlever cette nuit. J'ai peine, ma chère âme, à contenir mon dépit, ma rage.
Sanche, je te regarde comme étant déjà mon mari. Viens cette nuit à ma porte.
Oh, mon bien,
La laisseras-tu ouverte?
Oh non! Impossible!
Enfin, par cette promesse, tu me sauves la vie. Je me serais tuée.
Et moi, je serais morte avec toi.
Le curé est venu, mais n'a pas pu entrer.
Dantel, là aussi, est opposé.
Mais si tu consens à m'ouvrir, je me consolerai de ce malheur. Car pour guérir des tourments comme les miens, l'amour vaut une cure.
Dantel, devenu fou, retient Elvire captive dans son château. Il faudra l'intervention personnelle du roi, qui fait couper la tête à Dantel, après plusieurs remontrances inutiles, pour régler le litige et rendre Elvire à Sancho. Un conflit à peu près analogue est celui qui oppose Peribáñez au commandeur d'Ocaña, dans la comédie de ce nom. Le commandeur vient d'être blessé par un taureau et on l'amène à la maison de Peribáñez où Casilda, qui vient d'épouser ce dernier, le soigne. Le commandeur lève les yeux, voit Casilda et l'action s'enchaîne à partir de ce moment.
Quelle misère qu'un malheur survienne à celui qui est la parure de l'Espagne. Quel brillant cavalier, quel valeureux combattant. N'est-ce pas vous qui semiez la terreur avec votre épée dégainée parmi les morts de Grenade? N'est-ce pas vous qui en avez massacré un grand nombre? C'est une corde qui a abattu celui que leurs armes n'ont pu abattre. C'est avec une corde que la mort vous atteint, comme si elle avait voulu voler la gloire et la réputation d'un si courageux capitaine. Oh, seigneur commandeur.
Qui m'appelle? Qui est là?
Bonne nouvelle, il a parlé.
Hélas. Qui donc es-tu?
C'est moi, seigneur. Ne vous inquiétez pas, car vous êtes dans un endroit où l'on vous souhaite autant de bien que vous pouvez en désirer pour vous-même. Il vous reste, il est vrai, le regret d'avoir couru ce taureau. Veuillez du moins considérer que cette maison-ci est la vôtre.
Dans cette maison se trouve aujourd'hui le plus riche trésor de l'humanité. J'étais mourant, étendu sur le sol, et lorsque j'ai ouvert les yeux, il m'a semblé que je me trouvais au ciel. Si je me trompe, mais dites-le-moi, au nom de Dieu. Car comment ne serais-je pas au ciel lorsque je vois à mes côtés un ange comme vous?
Loin d'être vivant, vous me paraissez au contraire sur le point de mourir.
Comment cela?
Parce que vous avez des visions, et que votre seigneurie prenne garde. Si je lui suis reconnaissante d'honorer de sa présence une pièce de mon humble logis, c'est d'aujourd'hui seulement que ce logis est le mien.
Seriez-vous la mariée par bonheur?
Ce ne sera point par bonheur si le mal que vous avez contracté à l'occasion des fêtes de mon mariage se prolonge et s'accroît par la suite.
Êtes-vous déjà mariée?
Mariée et très heureuse.
Peu de femmes jolies sont heureuses.
Eh bien, moi, j'ai eu le bonheur réservé aux laides.
Se peut-il qu'un grossier paysan soit le mari d'une pareille beauté?
Avec votre permission, seigneur, je m'appelle Casilda.
Je suis émerveillé de voir ce costume et cette irréprochable perfection. Oh, vous qui semblez un diamant enchâssé dans du plomb, combien fortuné est l'homme auquel vous faites hommage de votre beauté.
Le bonheur n'est pas pour lui, il est pour moi, monsieur le commandeur, que votre seigneurie en soit bien persuadée.
Casilda, il y a en vous assez de mérite pour que vous puissiez épouser même un mari comme moi. Accordez-moi la permission de vous rendre mes soins.
Je ne trouve pas le curé. Si l'état du blessé s'aggrave...
Ne cherche pas davantage, parce que Don Fadrique et notre seigneur a recouvré la santé.
Bonne nouvelle! Mon amour tempéra l'étreinte.
Oui, telle a été sur moi la vertu de cet ange céleste.
Seigneur, la litière est là.
Eh bien, qu'elle reste sous le porche, je n'ai pas besoin de m'y étendre.
Dieu soit loué.
Si je reviens bien portant, je m'acquitterai de ma dette envers vous deux. De telle façon que vous voyez que je suis sensible à votre bon accueil.
Si pour votre bonne santé, je pouvais sacrifier la mienne, croyez, Seigneur, que je le ferais.
Je n'en doute pas.
Qu'éprouvez-vous?
J'éprouve une violente passion que je ne ressentais pas en arrivant.
Je ne comprends pas.
Cela importe peu.
Moi, je parle de votre accident.
C'est une pensée folle qui met ma vie en péril.
Cette fois, c'est Peribáñez lui-même qui tuera le commandeur. Le roi ne viendra qu'à la dernière minute pour l'absoudre. Ces exemples, qui pourraient être multipliés abondamment, suffisent à nous montrer qu'il s'agit là de la pensée centrale, obsessionnelle presque de Lope de Vega. Aucun exemple n'est si lapidaire, cependant, que celui que nous trouvons dans Castelvines y Montesis, c'est ainsi que Lope de Vega nomme son Roméo et Juliette. Lorsque Roméo entre dans le bal et voit Juliette, il reste si ému que son ami lui demande « Que viste ?»« Mi muerte vi », lui répond Roméo. « Qu'as-tu vu ?»« J'ai vu ma mort. » Cette exploration dans l'œuvre de Lope de Vega met en évidence la qualité satanique de Don Juan, qui use de l'amour comme d'une drogue. Car si le conflit que ce regard mortel engendre se rejoue dans l'amour ou par la mort dans la pièce de Lope, il ne se rejoue pas ainsi pour Lope de Vega lui-même, qui a besoin de se droguer de nouveau. Il suffisait de voir cela, d'assister de l'extérieur à ce drame, au remous que le théâtre de Lope de Vega engendrait et au succès qu'il emportait, pour que le personnage de Don Juan s'imposât comme une nécessité. On ne pouvait pas aller plus loin dans cette voie. Il fallait un recul, une synthèse que Lope, pris dans le jeu, ne pouvait pas réaliser. Car il ne faut pas croire que ce jeu terrible ait jamais été un jeu pour lui, qui se joue en entier dans chaque pièce, comme Don Juan se joue en entier dans chaque amour. L'un comme l'autre se détruisent en détruisant. L'instinct de destruction qui anime Don Juan est de la même espèce que celui qui pousse inquisiteurs et révolutionnaires à brûler respectivement les hérétiques ou les églises. C'est l'instinct de destruction de l'Ibéric. Mais qu'est-ce donc juste que détruit Don Juan? Il y a un passage de Jean-Gabriel Borgman d'Ibsen dans lequel la femme que Jean-Gabriel avait aimée pendant sa jeunesse, devenue vieille fille, lui reproche de lui avoir détruit sa vie amoureuse. Elle précise qu'il y a dans la Bible des paroles où il est question d'un péché qui échappe à la grâce divine. Ce péché est celui qui commette ceux qui détruisent la vie de l'amour dans un autre être humain. Ce passage de l'œuvre d'Ibsen coïncide point par point, quant à l'idée, avec le passage suivant de l'otage de Paul Claudel, entre Georges et Signe de Coufontaine. Georges, tu as manqué à l'amour. Signe, je te fais beaucoup de peine, Georges. Georges, c'est trop. Il ne fallait pas faire cela et ma mesure était suffisante. Maintenant, je vais mourir à être damné et j'ai l'éternité devant moi à me passer de toute consolation. Ne pouvait-il pas me laisser cette petite heure? Ne pouvait-il pas me laisser un seul cœur fidèle, une seule Véronique pour m'y cacher la face, afin que nul ne la voie, à cette heure où le cœur succombe? Signe. C'est moi seul qui a fait cela, qui a fait cela de ma propre volonté, ne dis pas un mot contre Dieu. C'est mon mauvais cœur seul qui en est la cause. Georges. Tu as manqué, tu m'as manqué, et mon enfant m'a été tourné en amertume. Signe. Que Dieu prenne ma place misérable et acquitte ce que je ne puis payer. Georges, il ne fallait pas faire cela. Le manquement qui est fait à l'amour vrai, Dieu lui-même ne peut le réparer. Il ne le peut pas quand il créerait de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Eh bien, Don Juan, c'est lui qui vit constamment dans ce péché et qui vit de lui, se nourrit de lui. Don Juan a besoin de nouvelles proies sur lesquelles s'exercer. Il réclame un amour si grand, si absolu, si impossible, et c'est en cela qu'on devine sa parenté avec les grands mystiques, que s'il le trouvait, il en serait anéanti sur le champ. D'après les témoignages qu'il nous en a laissés, Lope de Vega semble être un des hommes qui ont vécu plus au vif ces tourments intarissables. Que nous sommes loin de la brutalité du diffamateur, de la ruse du bourlador. On le devine, le véritable Don Juan s'attaque à l'âme. Le reste lui est donné par surcroît. Pour le retrouver tel, pour le retrouver tout au moins dans son cadre psychologique et dans cette pensée platonico-chrétienne qui est son support, il faut en chercher les traces dans l'œuvre de Lope de Vega plus que dans celle de ses successeurs. On ne saurait mieux affirmer la pérennité et la modernité de cette œuvre.
Nous venons d'entendre une causerie de M. Joseph Palau sur le thème de Don Juan chez Lope de Vega. Les scènes illustrant cette causerie étaient tirées de La Belle aux yeux d'or, de Le meilleur alcade et le roi, et de Péribagne chez le commandeur d'Ocaña, et elles étaient interprétées par Laurence Badi, Jacqueline Brasseur, Christiane Lasquin, Lionel Bellac, Paul-Émile Débert, sociétaire de la Comédie Française, Bernard Deran, Michel Gudin, Jean-Paul Moulineau et Jean Rougerie.
C'était Collège des Ondes, première diffusion sur la chaîne nationale le 6 mars 1953. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.